Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'Intégral Sport jusqu'à 20h, 2h d'infos, 2h de bonne humeur avec Olivier Giraud. Salut Olivier, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe aussi.
Hein, salut Arnaud.
On parle évidemment de handball. On est content d'être avec toi. Voilà, pour 2h, on parlera de football, mais pas que, puisque ça sera dans la deuxième heure tout à l'heure. On aura un invité, on parle souvent de lui comme le GOAT, le plus grand de tous les temps. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Nicolas Karabatic sera notre invité. Un palmarès long comme le bras. Là, je pense qu'on prend 2 heures pour détailler tout le palmarès de Nico.
C'est clair, il y a quelques titres.
Mais oui, et dont un titre de champion olympique ensemble à Pékin en 2008. Encore des souvenirs. J'ai vu une photo de vous, tous les deux.
Non, j'ai pas de commentaire.
Pourquoi ?
J'ai cru que tu allais faire un commentaire sur la photo.
Ah bah non, parce que l'émotion, la joie, aucun. Mais non, je me permettrai pas. Et puis on parlera également dans la deuxième heure de golf. Je sais que tu es un passionné de golf. C'est ta deuxième passion maintenant, le golf.
Ouais, j'aime bien ça.
Parce qu'il se passe quelque chose d'assez invraisemblable au niveau mondial, avec une structure, avec le fonds souverain d'Arabie Saoudite qui est en train d'attirer les meilleurs golfeurs de la planète à coups de pétrodollars. Mais avant cela, l'actualité football avec la prise de parole de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, à 2 jours de l'entrée en lice des Parisiens face à Clermont en Ligue 1. Le coach a notamment évoqué l'aspect défensif. Comment faire défendre tout le monde ? C'est vrai que c'est une question récurrente ces dernières années au PSG.
Bah ouais, il faut trouver la bonne carburation. C'est vrai qu'on parle souvent de l'attaque du PSG, du milieu de terrain du PSG. Mais on l'a vu avec les Italiens pendant très très longtemps, hein, gagner c'est prendre un but de moins que les autres.
Exactement. À 18h30, un défenseur, ça tombe bien, sera avec nous. Le jeune défenseur central de Toulouse, Anthony Rau. Toulouse qui a marché sur la Ligue 2 l'an passé et qui retrouve l'élite 2 ans après l'avoir quitté avec une ferveur retrouvée. Plus de 10 000 abonnés cette saison au Stadium. Le 32-16 est ouvert. Hashtag RMC Live sur les réseaux sociaux et l'appli Direct Studio pour vos messages. Le Paris Saint-Germain débute son championnat samedi à 21h à Clermont-Ferrand. Il n'y aura pas encore Phil Collins, puisque ce sera au stade Gabriel Montpied à 2 jours du match. Christophe Galtier était en conférence de presse. Anthony Reich de la rédaction y était. Bonsoir Anthony.
Salut Arnaud, salut Olivier, bonsoir.
Salut Anthony.
D'abord, on avait un petit peu l'habitude, parce que c'est pas la première fois que Christophe Galtier s'exprime, mais on va dire changement de ton ou d'atmosphère par rapport à son prédécesseur Mauricio Pochettino.
Ah oui, là c'est presque une petite révolution qui s'est opérée. On l'avait vu lors des premières conférences de presse, notamment lors de la tournée au Japon du Paris Saint-Germain, mais là c'était la première conférence de presse de Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du club de la capitale, au centre d'entraînement dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Et on a eu un discours totalement différent, avec des analyses assez approfondi, des réponses vraiment fouillées. Il nous a donné à manger, comme on dit dans le jargon des journalistes, un vrai bon client et jamais avare de bonnes réponses, parfois aussi des petites blagues de temps en temps entre les questions. Enfin, vraiment un discours très intéressant d'un entraîneur qui est bien dans son nouveau costume d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il est bien au camp des loges aussi du côté des Yvelines et on le sent prêt pour démarrer et très impatient de démarrer cette nouvelle saison.
Alors, pas pour taper sur Mauricio Pochettino qui était toujours courtois, qui comprenait les questions en français mais répondait toujours en espagnol. Bon, c'est aussi un peu le vent de nouveauté, de fraîcheur. On verra peut-être après 50, 60 conférences de presse, Olivier, parce que c'est vrai que c'est un exercice assez chronophage.
Bah, tu sais que bizarrement, pour les journalistes français, ça doit être un vrai vent frais, tout ça. Parce que tu peux aller dans le fond des choses, tu peux sentir les choses, alors que quand tu ne parles pas dans ta langue natale, difficile de sentir le vrai sentiment. Et là, tu le vois, hein, le mois qui est passé avec Galtier, c'est hyper riche, parce qu'il y a un ton, il y a une envie, tu sens tout, tu sens même la maîtrise, comment il gère son équipe. Et de ce côté-là, je peux te dire, ils n'ont pas encore débuté le championnat ni la Ligue des Champions, mais c'est déjà intéressant parce qu'on a un coach qui répond aussi aux attentes de tout le monde. Un coach qui parle, c'est un coach qui communique sur son équipe, et là c'est le cas avec Galtier.
Et Christophe Galtier fut interrogé notamment sur l'aspect défensif. On parle beaucoup de l'attaque Kylian Mbappé, Neymar, Léo Messi. Mais c'est vrai, sur la défense, au-delà du système et de ces trois défenseurs centraux, il y a aussi comment mettre tout le monde au diapason défensivement, Anthony.
Ouais, ça a été un des thèmes importants d'ailleurs de cette conférence de presse à deux jours de cette rentrée en Liga face à Ligue 1 face à Clermont. Très vite, le retour de Kylian Mbappé a été dans les questions puisqu'il sera de retour après avoir été absent lors du trophée des champions, dans les questions des journalistes. Et avec ça, évidemment, l'entente des trois, Arnaud, Mbappé, Messi, Neymar. On a vu les deux derniers cités qui ont montré de bonnes dispositions lors du trophée des champions, presque transfiguré d'ailleurs Neymar par l'arrivée notamment de Christophe Galtier, avec qui ça se passe très bien. Et bien l'entraîneur parisien, il a clairement fait passer un message à ses stars concernant justement ce fameux repli défensif.
Concernant ce fameux équilibre ou le repli défensif, c'est tout d'abord une envie collective, une envie et c'est aussi une responsabilité individuelle. Il y a des périodes dans des matchs où c'est très serré, très fermé, où l'équipe n'a pas encore pris l'ascendant sur l'adversaire, n'a pas pris l'ascendant en termes de score, n'a pas creusé des écarts. On doit être très attentif à ne pas donner de possibilité à l'adversaire de pouvoir nous faire courir longtemps et de long en large. Quand vous avez un partenaire qui fait un effort, évidemment que c'est contagieux et ça donne envie à celui qui est à côté, à celui qui est de l'autre côté, de faire les mêmes efforts. Et c'est là-dessus que nous devons être très attentifs et très rigoureux tant que le match n'est pas acquis. Après, on doit avoir la volonté d'accepter tous ensemble qu'on doit défendre tous ensemble.
Olivier, en fait, c'est la base d'un sport collectif, c'est faire l'effort avec le copain, pour le copain.
C'est ça, soit t'as le coach qui l'imprègne parce que c'est hyper important, soit tu joues au Real Madrid et le 6 c'est Claude Makélélé. Et à ce moment-là, le mec il a tellement de caractère qu'il peut dire carrément à ses coéquipiers, écoute, là va falloir redescendre, là va falloir agir comme ça. Verratti n'a pas ça, il a le talent. Il a énormément de choses, mais sa place dans l'équipe en tant que, on dira de manière familière, de bonhomme, eh ben ça, il l'a pas. Ça, il l'a pas. Et à ce moment-là, c'est au coach de prendre ça en main et que le message, il est assez clair. Je pense que tu vas revenir sur la défense après, ouais. Parce que c'est un cas important. Parce qu'en fait, c'est toute une articulation qui fait que l'équipe bouge en même temps.
Oui, parce qu'on a souvent dit le PSG se prenait des vagues et t'avais les deux défenseurs centraux ou les trois quand ils jouaient à trois. Bah, c'est presque trop tard. Une fois qu'il y a la vague passée, c'est avant qu'il faut agir.
Ouais, avant. Et en plus, en termes de débauche d'énergie, ça veut dire que les défenseurs faisaient de grands matchs, mais sur la longueur, ça peut pas tenir. Sur la longueur, ça peut pas tenir. Et dès que t'avais des défenseurs qui étaient en méforme physique, tu voyais tout de suite que ça devenait très compliqué pour le PSG. Et ça devenait même très compliqué puisque tu finalement il y avait des trous entre l'avant, le milieu et l'arrière, ce qui créait des déséquilibres qui faisaient que ça pénalisait même le jeu d'attaque.
Et d'ailleurs, une illustration assez cocasse de ce nouvel état d'esprit que veut insuffler Christophe Galtier à ses joueurs et de ce début idyllique entre les joueurs et le staff, c'est cette petite séquence avec Antoine Camboiré, l'entraîneur du FC Nantes lors du Trophée des Champions, qui dit à un moment à Neymar, tu défends toi maintenant.
Donc, c'est beau.
Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi un état d'esprit qui est en train de changer au sein du Paris Saint-Germain.
C'est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, que ça vienne du coach adverse, hein. Chambreur, mais aussi voilà, c'était un fait réel qui a pointé Antoine Camboiré. La défense à 3, justement. Tiens, je pense que c'est lui, il a pas sa langue dans sa poche, Sergio Ramos, après toutes ces années de capitaine au Real Madrid. Il s'annonce comme un taulier cette saison. C'est vrai que un an après son arrivée, on attend peut-être plus d'une saison 2021-2022 émaillée par les blessures, les pépins physiques, où on l'a vu juste sur la fin du championnat.
Ouais, clairement, Arnaud, hein, Sergio Ramos sur la saison précédente, c'est 12 matchs joués en Ligue 1, dont 8 titularisations. Il y a eu un carton rouge aussi, donc c'est pas vraiment une réussite sur le plan du jeu. Transfert très critiqué. L'Espagnol, cette fois-ci, est déterminé à faire une grande saison avec le Paris Saint-Germain, après avoir réalisé d'ailleurs une préparation complète. Il n'a pas loupé de séance d'entraînement, ce qui était en fait la règle la saison dernière. Et il a été bon aussi, solide, face à Nantes lors du Trophée des Champions. Le technicien parisien, Christophe Galtier, compte sur l'ancien capitaine du Real Madrid, évidemment. Il y a d'ailleurs une vraie relation de proximité entre les deux, on l'écoute.
Automatiquement, il fait partie des cadres du vestiaire. Et il m'est arrivé, dans différents clubs, d'avoir des cadres qui, quelquefois, ne jouaient pas parce qu'il y avait meilleur. Mais je m'appuie toujours sur ce profil de joueur et avec un parcours extraordinaire. Et ce qu'ils doivent amener en termes de professionnalisme aux uns et aux autres. Et ce qu'ils peuvent m'amener à moi aussi à travers des échanges sur leur vécu que je n'ai pas et que je n'ai pas eu. Sergio a fait une préparation où il n'a manqué aucune séance d'entraînement. Il a fait beaucoup de matchs de préparation qui a montré qu'il était prêt cette année à être performant et disponible.
Tu y crois, Olivier, à la grosse saison de Sergio Ramos ?
Écoute, si tu reprends mes propos il y a un an, j'y croyais pas une seconde. Et j'adore revenir sur dire bah en fait tu t'es trompé. Et ça c'est je pense que c'est le propre des grands bonhommes, parce que à l'âge qu'il avait, franchement, si tu prenais de manière proportionnelle, je dis c'est impossible, le mec il a cet âge là, là il est blessé, la blessure c'est pas une petite blessure.
C'était le mollet,
je me dis si un grand club, son club, le Real Madrid, le laisse partir, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'en fait ils nous ont dupé sur la marchandise et on s'est pris dedans, mais ce mec n'a jamais rien lâché. Et ça c'est la marque des grands bonhommes, des grands champions. Et de ce qu'on a vu, il va se poser un truc, c'est que souvent on s'est posé la question, tu sais, de l'équilibre offensif. Ça veut dire qui était le patron en attaque. C'est souvent arrivé. Bah, pour la première fois au PSG, il va se poser la question de qui est le patron en défense. C'est-à-dire que souvent on laissait à Marquinhos, Kimpembe aussi, qui était limite indétrônable. Si Ramos est je dis pas performant, parce qu'il sera toujours performant, mais si Ramos n'est pas blessé,
s'il enchaîne,
et s'il enchaîne, ça, c'est clair que ça va être lui le gros patron.
On accueille Malcolm au 32-16. Salut Malcolm.
Salut, comment allez-vous?
Ça va bien et toi?
Ça va, ça va.
Tu nous appelles d'où Malcolm?
Paris.
De Paris, supporter parisien, c'est logique. Oui. Évidemment. Oui. Qu'est-ce que t'en penses de Sergio Ramos? Est-ce que t'es d'accord avec Olivier? C'est possiblement le patron de la défense parisienne, si évidemment il enchaîne les matchs. Tu vois ça en...
Alors, déjà, au niveau du caractère, oui. C'est avec le patron, on va pas se mentir. J'adore Marquinhos, mais Marquinhos, c'est pas le, on va dire, le méchant, la garce dans la défense. Et Kimpembe, je pense qu'il aura besoin d'un Ramos parfois pour rester toujours concentré. Après, ce qui me fait un peu peur avec Ramos, alors, l'année dernière, c'est vrai qu'il a été souvent blessé. L'avantage sur cette année, c'est qu'il y a d'une, comme l'a dit justement, le journaliste précédent, c'est que oui, il a fait une préparation complète. Faut oublier, comme il a été blessé, bah forcément aussi, il a moins fait de matchs l'année dernière, donc il est un peu plus reposé. Et il va aussi pouvoir profiter du calendrier de cette saison, où il y a la Coupe du Monde. Et vu qu'en ce moment, vu qu'il n'est plus sélectionné en équipe d'Espagne, il pourra profiter de se reposer durant les 3 semaines de Coupe du Monde, je crois. Le mois de Coupe du Monde, donc au final.
Une quarantaine de jours, oui.
Quarantaine de jours. Donc, faut juste. J'attends un peu quand même de voir les premiers matchs, s'il va mieux. Même si là, pour l'instant, ça va bien, ça tient bien. Mais si ça s'enchaîne bien, bah, je m'inquiète pas pour lui, quoi.
Il peut être clairement incarné cette grinta, ce charisme qui parfois faisait défaut, Malcolm.
Ah oui, bah oui, oui, oui. Bah, quand on voit Ramos sur sa carrière, moi, je. Monsieur Jardia, il a une grinta, il a du vice, moi j'adore ça. Moi j'oublierai jamais justement la finale face à Liverpool, où à cause de lui, même si c'est pas vraiment, Salah est sorti du match.
Il y avait l'Atletico aussi, les coups de tête.
Les coups de tête, voilà. Karius, durant aussi Liverpool, où il a assommé Karius durant tout le match, on l'a plus vu. Oui, face à Atletico, c'est lui qui. Bah, Atletico, c'est vrai, c'est lui qui. Qui permet au Real de faire 1-1 avant la fin du match, et puis après, en prolongation, ça déroule. Non, c'est un mec justement charismatique, mais qui, à côté de ça, apporte du caractère à ses coéquipiers.
Olivier ?
Ah ben, complètement aligné, mais il y a une chose qu'on a oubliée de Ramos, je pense, non, personne ne l'a oublié, c'est que c'est aussi un apport offensif. C'est-à-dire que c'est un joueur capable dans sur des moments sur les corners, en plus avec la qualité de ballon, de centre des joueurs du PSG, c'est quelqu'un qui peut apporter énormément, faire énormément peur aux défenses adverses sur coup franc arrêté.
Et puis il y a un paramètre discuté avec l'arbitre. Quand c'est Sergio Ramos, Verratti, on le connaît, on sait qu'il va toujours venir vers l'arbitre. Quand c'est Sergio Ramos, qui a aussi un petit peu l'habitude de discuter, parce qu'en Espagne, c'est un petit peu différent aussi, ça parlement, un petit peu comme en France, on va dire que c'est les latins, mais c'est pas la même chose quand c'est un Sergio Ramos qui va devoir, avec tout le respect que j'ai pour Marco Verratti, joueur chevronné, mais qui est habitué au carton jaune à se faire sanctionner et souvent être dans le viseur des arbitres.
Ouais, surtout, ça va soulager Verratti de ça. Également parce que je pense que Ramos va prendre le relais, comme on l'a dit, hein, si vraiment il joue, parce qu'il a ce caractère-là. Et en Ligue des Champions, il y a aussi une dominante qu'on oublie souvent, c'est le caractère des joueurs au-delà du talent pour mettre la pression sur les autres joueurs. Parce qu'il y a des moments où il y a des affrontements où un joueur se fait tacler sèchement, et on parle très rarement de ces discussions qu'il y a sur le terrain. Et Ramos est un vrai patron, et je pense
qu'il parle aux autres.
Il parle aux autres et il saura rendre les coups aussi pour ses attaquants. Parce que, par exemple, un joueur comme Neymar, on peut aimer, ne pas aimer, mais dans une équipe où il y a un Ramos, où il y a un Puyol, tu touches à un Neymar ou à un Messi, derrière, t'as intérêt à être très bon parce que souvent, tu te fais régler le compte par un mec comme ça.
Et derrière, ça canalise aussi Neymar, qui veut peut-être pas aller se venger sur le mec qui vient de lui mettre un taquet. Quoi.
Exactement, mais dis-moi un nom de qui faisait ça au PSG auparavant. Non, on n'avait pas ce type de joueur, on n'avait pas ce type
d'été, oui,
les
ça Carvalho. Vient pas.
Tu peux prendre toutes les équipes qui
il y
gagnent.
Il y a Thiago Motta, mais c'était
voilà. Thiago Motta.
À l'époque où il y avait Thiago Motta, c'était comme ça. Tu peux prendre toutes les équipes qui gagnent, il y a toujours un joueur de ce profil-là.
Et c'est vrai que Thiago Motta, quand il est parti, beaucoup de supporters parisiens le regrettaient parce qu'il était un petit peu garant de ce que tu décris aussi. Ça tenait ses coéquipiers, puis ça rentrait dans la tête aussi des adversaires.
Ah, et puis il soulageait énormément, encore une fois, on va parler de lui parce que ça va être un des maillons essentiels du PSG. Verratti reste un des maillons essentiels du PSG, mais c'est quelqu'un qui a besoin psychologiquement d'avoir des gros patrons autour de lui pour le soulager et surtout qu'il ne sorte plus de son match. Et là, tu as besoin de... la vieille expression de grand frère à côté qui te laisse seulement concentré sur ce que tu as à faire.
C'est parce que
terrain.
Des tontons là. Hein.
Ouais, c'est des tontons. C'est des tontons.
Merci Malcolm qui a composé le 32-16. À très vite Malcolm. Anthony, juste pour terminer sur le mercato, parce que c'est pas terminé du côté du Paris Saint-Germain.
Oui, c'est pas terminé. Christophe Galtier a annoncé la couleur. On le sait, il nous a confirmé en conférence de presse que Renato Sanchez était attendu aujourd'hui pour l'officialisation au sein du Paris Saint-Germain. A priori, ça sera un contrat de 5 ans pour le jeune milieu de terrain portugais, un profil qu'il adore d'ailleurs, hein, Christophe Galtier, hein, ce côté percussion, puissance, capable de casser les lignes, c'est vraiment un profil qu'il recherchait au sein du staff parisien. C'est la quatrième arrivée dans ce mercato pour le club de la capitale, après Vitinha, Ekitike et Mukiele. Mais ils veulent encore du renfort, justement, le club de la capitale, et on attend des recrues, même si le marché est tendu, c'est ce que nous a dit Christophe Galtier cet après-midi.
Je vous réponds franchement, 3. D'accord. Après, il y a la difficulté du mercato, c'est difficile, et je sais que le président et la direction sportive à tous campos travaillent énormément là-dessus. Je le répète encore une fois, on n'est pas là aussi pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif, et des joueurs qui soient très proches les uns des autres en termes de niveau, pour être performants tout au long de la saison, et créer aussi une saine concurrence. Mais est-ce que ces 3 joueurs vont arriver rapidement, ou plus tard, ou pas du tout, je ne le sais pas. Je sais que le club met tout en œuvre pour avoir un effectif très compétitif.
On en avait parlé de la concurrence il y a quelques jours, mais surtout le message, à mon avis, il est très clair pour les lofters. Là.
Oui.
C'est-à-dire que je veux une équipe équilibrée, du même niveau, et là, ça écarte automatiquement beaucoup de joueurs.
Et il l'a reprécisé un petit peu plus tôt dans la conférence de presse, il ne veut pas un effectif en quantité. Il l'a à nouveau précisé, justement. Donc, ça va dans ton sens, Olivier. Il ne veut pas empiler les joueurs. S'il y a du renfort, ça veut dire automatiquement que derrière ou avant l'arrivée de nouvelles recrues, il y aura des départs. Il y a des départs qui sont quasi finalisés, qui sont dans les tuyaux, mais c'est pas encore totalement fait. Mais il ne veut pas empiler, avoir une trentaine de joueurs sous contrat. Ça, c'est impossible pour Christophe Galtier.
Premier match du Paris Saint-Germain, samedi 21h, à Montpied, le stade Gabriel Montpied, à Clermont-Ferrand, à suivre évidemment sur RMC. Merci beaucoup Anthony.
Avec plaisir.
À très vite sur RMC. Nous on revient dans un instant, Olivier, on va parler d'un fait important pour cette saison à venir. Il n'est pas spécifiquement sportif, c'est les tribunes. On a eu beaucoup de débordements la saison passée et vous verrez les nouvelles dispositions qui seront prises pour la première journée et pour cette saison. On en parle tout de suite avec Nicolas Pelletier de la rédaction qui a travaillé sur ce sujet. 18h18 sur RMC. Allez, on revient dans même pas une minute, promis, à tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
De retour avec Olivier Giraud, l'Intégral Sport, jusqu'à 20h. On parlera du TFC de Toulouse, de retour en Ligue 1 dans 10 minutes avec un invité. C'est le jeune défenseur du TFC, Anthony Rouault, supporter toulousain. Le 32-16 est ouvert. Appelez pour poser vos questions à Anthony Rouault qui sera avec nous dans une petite dizaine de minutes. Nous, on va s'intéresser à un enjeu important de cette nouvelle saison de Ligue 1 qui, c'est vrai, n'est pas lié au sportif Olivier. Mais à la sécurité dans les stades, c'est vrai qu'on a vécu une saison galère avec beaucoup d'incidents dans les stades et c'est vrai que les instances ne veulent plus revoir ça cette saison. On accueille Nicolas Pelletier de la rédaction. Salut Nicolas.
Salut à tous.
Quelles sont les nouveautés cette saison? C'est vrai qu'il y a un protocole pour les matchs à risque qui a été spécialement élaboré par les instances.
Oui, selon nos informations qu'on a dévoilées hier sur le site rmcsport.fr, en fait, la LFP a appliqué ce qui avait été décidé lors de la réunion interministérielle. Vous vous en souvenez, c'était en décembre dernier, après les incidents lors de Lyon-Marseille, je crois, quand Dimitri Payet est touché au dos par un projectile, par une bouteille d'eau. Et en fait, après cette réunion, il y avait eu plusieurs mesures, plusieurs décisions qui avaient été prises. Et en fait, la LFP applique ces décisions. Par exemple, sur la formation des stadiers, ça, on va y revenir. Mais la première grande décision, c'est quand même la mise en place de filets à l'intérieur des stades, surtout du côté des secteurs visiteurs. Et en fait, à partir de demain, quand on va voir Lyon-Ajaccio, il y aura des filets pratiquement partout dans les secteurs visiteurs des stades de Ligue 1.
Quelles sont les autres nouveautés? On connaissait des référents supporters qui avaient été nommés déjà il y a quelques saisons. Maintenant, il y a des policiers référents.
Alors, il y a des policiers référents. Ça avait été mis en place à Amiens en 2019. Ça avait été interrompu par le Covid. Ça avait plutôt bien marché. Donc là, ils ont décidé de généraliser un peu plus au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Il y a une dizaine de clubs qui vont être concernés cette saison par les policiers référents. Surtout, par exemple, à Paris ou à Saint-Etienne. C'est deux gros clubs avec deux gros contingents de supporters. Et en fait, ces policiers sont chargés de faire le lien, de faire tampon entre les clubs et les parties prenantes autour d'un match. Et ce personnel-là doit aussi servir à apaiser les tensions le soir d'un match, quand c'est des rencontres à haut risque, quand il y a des embrouilles, des incidents lors des matchs. Ils doivent permettre de faire le tampon. Et ils sont là aussi pour apaiser vraiment la situation. Autre nouveauté, et elle est quand même importante, c'est que les bouteilles d'eau seront interdites cette saison en Ligue 1. On n'aura plus de bouteilles d'eau dans les stades. Ça sera des verres qui seront servis aux buvettes des stades. On en voyait encore beaucoup dans certains, souvent des petits stades de Ligue 1. Mais là, en fait, c'est plus du tout des bouteilles. Par exemple, au Parc des Princes, il n'y avait plus du tout de bouteilles depuis plusieurs années. Mais c'est vraiment souvent dans les petits stades de Ligue 1 où il y avait encore des bouteilles, où on ne faisait pas le dosage et on ne reversait pas dans un verre et tout à chaque fois. Donc c'était souvent dans les petits stades de Ligue 1 où il y avait encore des bouteilles. Et donc là, à partir de demain, il n'y aura plus de bouteilles dans les stades de Ligue 1.
Après, il y a le double aspect écologie. Hein,
oui, aussi. Ouais.
L'environnement, voilà, les bouteilles en plastique.
Les verres en plastique, non?
Alors il y a des verres qui peuvent être recyclés, tu sais.
D'accord. Bon, on verra si ça sera
avec
ça.
La consigne en fait, quand on ramène le verre à la buvette et on reprend la pièce.
Olivier, sur ces mesures, est-ce que tu penses que voilà, les instances ont pris des mesures qui semblent cohérentes, ou voilà, c'est bien sécuriser un peu plus les parkages et tout, mais on règle peut-être pas forcément le fond du problème?
Écoute, y a un humoriste très connu à une époque, il faisait cette blague, il disait qu'on arrêtait dans les TGV les terroristes en mettant des bandes rouges au niveau des bagages. Ça c'est vraiment un pansement. Il va peut-être falloir réfléchir de manière plus conséquente aujourd'hui, parce que les événements se sont enchaînés, a terni l'image du football français. On a eu pendant très longtemps, il y a 20 ans, cette idée de se dire que le hooliganisme, finalement, c'était dans les autres pays, ce n'était pas nous. Et aujourd'hui, on est dans le top 3 des pays où tu ne peux pas aller dans un stade avec ta famille sans prendre le risque qu'il puisse y avoir un incident. Il y avait un club, et tu en as parlé tout à l'heure, le PSG, qui avait un très gros problème pendant des années. On a reproché cette loi Leproux pendant très longtemps. Il y a eu un gros combat avec les supporters. On se demandait si ce n'était pas trop. Et finalement, l'un des clubs qui était le plus problématique à l'époque, aujourd'hui devient l'un des stades les plus sûrs. Donc, les bouteilles d'eau, non, ça ne va rien régler. Il faut être plus sévère avec ceux qui fautent les troubles, parce que on ne peut pas laisser l'image du football français en l'état. C'est impossible. Et heureusement qu'il y a eu, je dirais, finalement, je dis pas heureusement, parce que l'événement du Stade de France a occulté la catastrophe de Saint-Etienne. La catastrophe de Saint-Etienne, on n'en a presque pas parlé parce que le Stade de France a pris toute la place. Et aujourd'hui, il faut des mesures beaucoup plus fortes, bien sûr.
Et c'était la scène la plus violente de la saison dernière.
Exactement.
Des tirs tendus, de fumigène.
Non, mais là, c'est plus possible. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était à Marseille-PSG, c'était il y a très très longtemps. Depuis, on s'est dit que ceci était fini. Non, il faut réunir toutes les parties, évidemment, mais tu ne pourras rien régler si tu ne fais pas comme en Angleterre, avec des sanctions beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourdes.
Et peut-être aussi pour... mettre les moyens sur la sécurité, parce qu'on voit généralement que certains organisateurs, là je vais peut-être au-delà du foot, mais globalement, n'hésitent pas à tirer les coups vers le bas, et souvent c'est sur la sécurité qu'on veut faire des économies.
Alors ouais, mais ce qu'on nous dit, il y a certains présidents de Ligue 1 qui nous disent ça. Ils disent que même sans ça, ils investissent dans la sécurité. Souvent, les stades ne leur appartiennent pas, donc ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent dans les stades.
Exactement.
Il y a que deux stades, hein, il y a que Lyon et Ajaccio qui appartiennent à leur propriétaire, à leur président. Et donc ça permet aussi de pas tout, on peut pas tout faire dans un stade qui nous appartient pas. Par exemple, un filet qui a été installé à Montpellier cet après-midi, c'est la collectivité, celui qui.
Même à Nice, quand il a fallu prendre des mesures. Cette fameuse populaire sud, c'était la collectivité, voilà. La métropole.
Donc c'est...
Et des fois, il y a un temps administratif, entre guillemets, bien tu sûr. Connais ça, hein, dans les discussions pour aménager.
Et il y a un autre point important, c'est qu'il y a une enveloppe de CVC, là, du fonds d'investissement qui est arrivée en Ligue 1, et dans le cahier des charges mis en place par la LFP, il demande en fait à ce que cet argent soit investi dans des infrastructures, et donc la sécurité en fait partie.
Il y a d'autres mesures aussi. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a presque vu aujourd'hui une mise en scène. C'est-à-dire que les réseaux sociaux et les 10 dernières années ont montré que les supporters, en tout cas, aimaient être filmés. Et donc, il faudrait prendre des mesures comme ça se passe dans d'autres pays, ne plus filmer les incidents, ça serait déjà une des premières choses, parce que ça ne doit plus être acceptable, on ne doit plus le montrer, on doit évidemment réduire les incidents, on n'arrivera jamais à la réduction zéro des incidents, mais en tout cas, déjà, on doit prendre des mesures et ne plus filmer ces supporters qui vont au-delà du plaisir d'aller regarder un match de foot, du plaisir d'aller supporter son équipe, parce que supporter son équipe, ça veut dire deux choses, hein. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu commences un championnat, il y a toujours des gens qui vont descendre. Quoi que tu fasses, hein, tu peux faire la meilleure saison de ta vie, si les autres la font un tout petit peu mieux, tout simplement, tu peux aussi perdre, c'est aussi ça. Et supporter son équipe, c'est la supporter aussi quand ça ne va pas, quand c'est compliqué, quand c'est difficile. Et aujourd'hui, on a cette impression, c'est gagner ou on casse tout. Non, ça, ce n'est pas acceptable. Parce que gagner, c'est pas une sinécure, c'est pas quelque chose que on prédit. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a une économie aujourd'hui dans le sport. Il y a aussi la réalité du sport. Et cette réalité du sport, eh ben, on doit la vivre ensemble. Normalement, c'est la même équipe, hein. On doit la vivre ensemble. Et pour avoir des joueurs qui mouillent le maillot, il faut aussi les supporter quand ça ne va pas. Parce qu'un joueur ne décide jamais de vouloir perdre un match. Jamais. Sauf que des fois, tu as des adversaires qui sont tout simplement plus forts que toi.
Et sauf que et toi, parfois, tu peux être dans un jour sans, une
aussi,
période sans.
Aussi.
Ça arrive. Juste pour terminer, Nicolas, sur la pré-saison, sur les matchs amicaux, il y a déjà eu quelques incidents. Hein.
Alors, il y a eu des incidents à Nice, entre Nice et le Torino, lors d'un match amical. Il y a eu des interpellations de supporters du Torino qui voulaient frapper des supporters niçois devant l'Allianz Riviera. Il y a aussi eu des incidents lors du match entre Rennes et Aston Villa, où des supporters d'Aston Villa ont été attaqués dans un bar à proximité du Roazhon Park. Et donc là aussi, il y a eu deux blessés. Donc ça inquiète les forces de police, souvent les renseignements qui sont dans ce genre de situation, dans la DLNH, la division de lutte contre le hooliganisme, qui sont spécialisés là-dedans, et ça les inquiète vivement quand ça commence comme ça lors des matchs amicaux.
Merci beaucoup, Nicolas Pelletier de la rédaction, pour ce point sur la sécurité dans les stades, un dossier, un enjeu majeur pour la saison qui arrive. 18h30 dans l'intégrale sport, on revient pour parler du TFC de Toulouse, de retour en Ligue 1 après une saison magistrale en Ligue 2. Notre invité est le défenseur central, le jeune défenseur central du TFC, très prometteur, Anthony Rouault.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
Avec Olivier Giraud, l'Intégral Sport jusqu'à 20h. Et tenez cette information basket. Vous savez, l'équipe de France de basket est en pleine préparation de son champion d'Europe. Et une très mauvaise nouvelle, puisque le pivot vice-champion olympique Mustapha Fall est contraint de déclarer forfait à la suite d'une blessure contractée lors d'un entraînement mercredi. Hier, pour l'heure, pas de remplaçant dans le groupe qui est actuellement de 15 joueurs, mais un partenaire d'entraînement va rejoindre les Bleus à Montpellier. Il s'agit d'Ismaël Kamagaté, qui était au Paris Basketball et qui a été drafté notamment en NBA en juin dernier. Mais voilà, Mustapha Fall, 30 ans, 21 sélections, et vice-champion olympique, je vous le disais, forfait. Un gros coup dur pour les Bleus, même s'il reste toujours Rudy Gobert dans la raquette. Et demain, on devrait avoir Vincent Poirier comme invité, l'un des pivots de l'équipe de France. On reviendra dans l'Intégral Sport sur ça. Après une saison magistrale en Ligue 2, le TFC est de retour en Ligue 1 deux ans après sa descente et le club suscite un réel engouement dans la ville rose. Plus de 10 000 abonnés au Stadium cette saison. Wilfried Templier nous a rejoint depuis l'Haute-Garonne. Salut Wilfried.
Salut Arnaud, salut Olivier, bonsoir à toutes et à tous.
Et l'un des artisans de cette hype, de cette remontée est avec nous, c'est le jeune défenseur central du TFC, Anthony Rouault. Bonsoir Anthony.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Anthony, la Ligue 1 reprend ce week-end. Toulouse affronte dimanche à 13h l'OGC Nice. Impatient d'attaquer cette saison, Anthony?
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, ça fait maintenant deux ans qu'on se battait pour retrouver l'élite et voilà, c'était chose faite l'an dernier. Donc maintenant, la pré-saison a été assez longue et maintenant, bien sûr, qu'on a hâte de voir un petit peu ce qu'on vaut au plus haut niveau, quoi.
Anthony, 8 matchs de préparation, 5 victoires, hein, dont certaines face à de belles écuries comme Montpellier, la Real Sociedad. Vous faites un nul contre Osasuna, il y a une belle prépa. Le noyau de l'équipe a pas changé. Alors, est-ce à dire que vous avez tout de suite retrouvé vos repères et que c'est positif, que les supporters peuvent y voir un signe pour les semaines à venir?
Ouais, bien sûr, c'est plus facile durant la prépa quand on arrive à garder la même base que ce qui a fait notre force la saison dernière. Donc c'est pour ça que de suite, on va dire, l'alchimie, l'osmose, ça s'est même pas créé vu qu'on a repris directement. Et du coup, ce qui a fait qu'on a pu continuer sur la belle dynamique qu'on avait la saison dernière. Et puis voilà, sur les matchs de prépa face à de bonnes équipes, on a réussi à continuer à faire ce qu'on faisait de bien. Donc c'est bien, maintenant, il va falloir continuer à le faire en Ligue 1, quoi.
Anthony, Wilfried te disait que finalement vous avez gardé la même ossature que la saison passée. La saison passée, vous avez un peu marché sur la Ligue 2 avec un très beau jeu collectif. Est-ce que lorsqu'on arrive et on revient en Ligue 1, est-ce que on reste sur le même système, sur cette confiance acquise en Ligue 2 pour jouer le même jeu que vous jouiez l'année dernière?
Moi, je pense qu'il faut. Après, peut-être que des fois, on va être un petit peu contraint à déroger à notre style de jeu, mais je pense qu'il va falloir qu'on continue à faire ce qui a fait notre force l'an dernier, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a été bon sur ça l'an dernier. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à nous appuyer sur nos points forts. Et voilà. Après, peut-être qu'il y aura certains matchs ou certains moments où on devrait un petit peu s'adapter. Mais je pense que sur la plupart de la saison, il va falloir continuer à faire ce qu'on faisait de très bien l'an dernier. Et bien sûr, s'améliorer sur nos petits points faibles.
Anthony, vous avez marqué 82 buts l'année dernière. Est-ce que vous avez, c'est une certaine image du club que vous avez changé en quelques mois?
Bah oui, c'est sûr que je pense que Toulouse n'était pas forcément réputé pour être une équipe qui marquait énormément de buts. Là, en plus, on a battu le record de la Ligue 2, donc c'est quand même pas rien. Et ça va rester, je pense, quelques années dans les mémoires. Donc c'est très très bien pour l'image du club.
Eh bien, bon, en tant que défenseur, j'espère peut-être un certain équilibre aussi, pas de côté vers l'avant.
Non, bah après, tant qu'on marque un but de plus que les adversaires, bon, c'est quand même le principal. Après, c'est vrai qu'on va peut-être un peu plus se faire quésiquer les défenseurs, mais bon, tant qu'on gagne à la fin, c'est quand même le principal. Donc, si c'est vraiment notre point fort, je pense qu'il faut quand même qu'on s'appuie dessus et pas qu'on dise qu'on ait peur, quoi.
Le défenseur que tu es a pris du plaisir, justement, à voir ses buts, à voir ce jeu de l'équipe?
Bien sûr qu'on prend du plaisir, bien sûr, même si nous on marque pas beaucoup de buts, bien sûr qu'on prend du plaisir à voir l'équipe marquer des buts, parce qu'au final tout le monde est heureux, et après même nous le match il est plus facile, quand un attaquant il marque des buts, nous derrière aussi c'est plus simple, donc c'est vraiment un travail d'équipe, il faut continuer sur ça.
Anthony Rouault, le défenseur central du TFC est avec nous, justement tu parles des buts Anthony, 4 buts la saison passée, mais uniquement à l'extérieur je crois, c'est ça?
C'est ça.
Donc c'est l'objectif cette année d'en planter un au Stadium?
Ouais, bien sûr. J'aimerais beaucoup. Ça me tient vraiment à cœur. Après voilà, je choisis pas. Je marque dès que je peux. Donc tant mieux. Ça a été à l'extérieur, ben, c'est déjà bien. Mais j'espère que cette année il y en aura aussi au Stadium, quoi. Ce serait beau.
Anthony, il y a un truc qui a changé par rapport à la dernière saison en Ligue 1 de votre équipe. Cette saison en Ligue 2 a apporté énormément de choses et la chose la plus importante, en tout cas que moi je note, c'est l'engouement du public. 10 000 déjà abonnés, est-ce que c'est quelque chose qui peut changer une saison pour vous?
Ah mais ça c'est sûr que c'est incroyable. Déjà voilà, 10 000, je crois que c'est une des premières fois ou la première fois que ça arrive qu'il y ait autant d'abonnés.
C'est historique.
Et bien sûr que quand voilà, c'est historique, et bien sûr que quand on aura des moments difficiles, comme on dit, les supporters c'est le 12e homme et ils seront là pour nous pousser et ça nous permettra peut-être de gagner certains points très importants donc au vu de la saison, donc bien sûr que ça va avoir un rôle très très important.
Alors on a parlé, on se souvient des Pitchoun à Toulouse, voilà ces jeunes joueurs. On a un petit peu ressorti, même le club a ressorti ce terme pour voilà illustrer tous ces jeunes joueurs, la génération que tu représentes. Je pense également à Nathan Ngoumou, Moussa Diarra, Bafodé Diakité qui va peut-être partir, ça c'est dans les détractations. Mais est-ce que voilà c'est quelque chose aussi que tu revendiques dans cette identité? Voilà, les Pitchoun étaient repartis peut-être d'un peu plus bas, mais toi tu as connu la descente du TFC d'un œil un petit peu extérieur parce que tu étais en équipe de jeunes, mais tu es arrivé juste derrière pour faire remonter cette équipe.
Non, mais oui, je pense que justement les Pitchoun, le centre de formation, ça reste depuis de nombreuses années l'identité du club. Donc il y a toujours eu de bons jeunes qui ont réussi à sortir du centre, intégrer l'effectif professionnel. Et voilà, nous, ça a été voilà une génération aussi qu'on a fait pas mal de bonnes choses en jeunes, que ce soit en U17 avec les playoffs ou en Gambardella en 19. Et voilà, donc on nous a laissé notre chance aussi avec l'équipe professionnelle. Et voilà, on a réussi à la saisir. Et voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça pour essayer d'amener notre club de cœur le plus possible.
Wilfried?
Bah oui, je parlais de cet amour pour le club, les joueurs formés au club qui montent en Ligue 1 comme ça, même si tu as eu quelques bribes de match aussi hein, en Ligue 1, Anthony.
Non, pas en Ligue 1.
Pas en Ligue 1? Faute. Paf, on tape sur les doigts, c'est bon. Pas en Ligue 1, donc tu vas découvrir ça avec ton club.
C'est ça.
D'où ça t'est venu? C'est du Lot-et-Garonne, hein, c'est ça?
Saint-Colomb de Lauzin. Yes. J'espère que je le dis bien.
Exact. C'est ça, exactement. Parfait.
Comment t'es venu cette passion pour le TFC?
Bah, tout simplement de mon père qui était supporter du TFC, et donc moi je suis né, donc il m'a transmis cet amour pour le TFC. Voilà, depuis que je suis tout petit je supporte le TF, donc voilà, mais tout simplement de mon père. C'est vrai que j'avais dans mon secteur entre guillemets c'était les Girondins de Bordeaux la plupart du temps, donc j'avais souvent tous mes potes qui étaient pour Bordeaux et moi j'étais le seul à être pour Toulouse, mais voilà, donc j'ai jamais changé, mon amour il a toujours été pour le TFC.
Anthony, tu sais, il y a toujours, tu sais, dans ces débuts de saison, dans chaque club, les questions qu'on peut poser au président, au coach, et ces questions tournent souvent à quel objectif pour cette saison. Mais on sait aussi que le vrai objectif, si on veut l'avoir, il faut le demander aux joueurs, parce que les joueurs souvent se parlent entre eux, se fixent des objectifs. Est-ce que tu pourrais nous donner ce petit secret que entre joueurs vous donnez les objectifs, si tu as le droit de le faire, bien sûr.
Ah, mais les secrets, c'est fait pour être gardé entre joueurs.
On essaye.
Non, mais sans même avoir forcément de discussion, je pense que bien sûr, l'objectif, entre guillemets, premier, ça va être le maintien, mais il faut pas forcément qu'on se fixe ça. Il faut qu'on essaye de faire la meilleure saison possible, de continuer à surfer sur notre dynamique. Comme on disait, il y a pas longtemps, on m'a posé la question s'il fallait devoir réapprendre à perdre, mais je pense pas. Il va falloir au maximum essayer de continuer à gagner. Donc peut-être qu'on y sera obligé, mais il faut qu'on fasse au moins la meilleure saison possible. Alors certes, ce sera plus dur, mais ce sera pas non plus impossible. Donc voilà, on va donner le maximum, mais plus tôt le maintien sera acquis, plus on profitera. Et je pense qu'on peut voir, bien dans le classement, quoi. Il faut pas qu'on se fixe forcément à la 16e place, parce que sinon, ça peut être contre-productif.
Le calendrier pour le TFC, c'est Nice dès dimanche à 13h à suivre sur RMC, Lorient, et puis la venue du Paris Saint-Germain fin août. Est-ce que, voilà, déjà sur ce premier mois de compétition, le coach, le staff insiste, et même vous, entre joueurs, vous insistez dessus parce qu'il faut bien démarrer et que généralement dans l'élan, ça porte un petit peu pour le reste de la saison, surtout, on peut parler même de deux saisons avec cette coupure et la Coupe du Monde, hein.
Non, ouais, c'est sûr. Il faut qu'on attaque. Là, les points, chaque match sera important. Chaque point sera important. Donc, il faut qu'on essaye de commencer le mieux possible. Alors, ce sera déjà un très, très gros match contre Nice dès dimanche. Mais voilà, on va essayer de surfer sur notre dynamique. Et on a vu qu'en pré-saison, en affrontant des bonnes équipes, on était pas à la rue. Donc, il y a quelque chose à faire. Donc, on va essayer de faire le maximum sur les premiers matchs. Après, bon, quand on arrivera à Paris, bon, là, c'est encore autre chose. Mais il faudra faire le maximum aussi. Et puis, on sait jamais, quoi.
Prêt à être un taulier, Anthony, même à 21 ans. Juste un petit chiffre, hein. C'est vrai que c'est flatteur pour toi l'année dernière. Avec toi, 64% de victoire. Sans toi, l'équipe, 28%, 27% de victoire. Prêt à être un taulier de la défense toulousaine en Ligue 1.
Ouais, après ces stats, bon, moi j'y prête pas trop d'attention parce que ça va vite dans les deux sens, donc ça veut pas forcément dire grand chose. Mais bon, tant mieux que ce soit dans mon sens, c'est sûr, on va pas s'en plaindre. Après oui, bien sûr, surtout à mon poste de défenseur, je pense que il va falloir que j'ai une place encore plus importante au sein de l'équipe, parce que il y aura pas mal de choses qui se passent derrière, donc il va falloir que nous qu'on soit bien, qu'on aide l'équipe à aller vers l'avant, parce qu'il va y avoir des moments compliqués, quoi. c'est sûr.
On s'attend souvent, on dit souvent la Ligue 2, voilà, c'est très physique, c'est très dur. En Ligue 1, tu t'attends à quoi? Avoir des attentes quand beaucoup plus rapide, beaucoup plus de qualité de déplacement?
Ouais, je pense beaucoup plus de tout, je pense que c'est beaucoup plus de tout, donc voilà, sûr que ça va aller plus vite, chaque joueur va être meilleur, donc sûr qu'il va falloir qu'on nous aussi on ose notre niveau, parce que voilà, ça va aller plus vite, plus technique, plus tout, donc à nous d'être encore meilleurs aussi.
Merci beaucoup, Anthony Rouault, défenseur du TFC Toulouse, donc qui démarre la saison dimanche 13h contre Nice, avec Monsieur Templier au commentaire, j'imagine.
Non, même pas. En plus.
Ah, même pas. Raté.
Tu sais que je vais venir vous voir à Paris pour un petit internet.
Ah oui, mais... c'est vrai, non, c'est vrai. Sera... Mais il sera rapidement de retour
au stade.
Ce sera
Paul Lafitte qui sera au commentaire et voilà, on va découvrir une équipe du TFC. Arnaud, juste pour les auditeurs, les supporters du TFC, on en parlera tout à l'heure dans l'After Foot à 20h45 pour les détails des mouvements qu'il y a eu dans l'équipe, à quoi il faut s'attendre, revenir sur cette prépa et on parlera un peu plus en détail de ça tout à l'heure à 20h45 sur RMC.
Merci beaucoup, Anthony. Très bonne saison.
Merci beaucoup.
Et au plaisir de te retrouver sur RMC. Voilà, ça fait du bien de revoir Toulouse, grande ville évidemment, et club. Voilà, on se souvient 2007, tour préliminaire contre Liverpool, Elmander, Siriech, tout ça, Gignac. Ça, c'est des bons souvenirs. Hein, ça donne un peu de frisson quand tu en y repenses, Wilfried. Hein.
Ah oui, et puis c'est quatrième ville de France, quoi. Donc c'est vrai que voilà, un club.
Il n'y a pas que le rugby,
foot,
hein.
Il n'y a pas que le rugby, comme tu dis. Et quand on voit l'engouement, tu parlais d'engouement, ils ont été capables de faire des fois des 28 000 spectateurs en fin de saison dernière en Ligue 2. Donc, si ça part bien, voilà. Il y a beaucoup d'attentes et beaucoup d'enthousiasme au niveau des supporters toulousains. D'ailleurs, il y aura un entraînement ouvert demain au public à 13h avant, à deux jours, voilà, de ce match face à Nice qui sera à 13h dimanche au Stadium de Toulouse.
Merci Wilfried et rendez-vous dans l'after tout à l'heure pour parler de ce changement total d'ambiance en l'espace de 2 ans avec la nouvelle direction du TFC et cette atmosphère incroyable. Entre ferveur, famille, plein de nouvelles générations qui redécouvrent aussi le foot au stadium. Merci Wilfried et on te retrouve tout à l'heure. On parlera rugby, non pas du stade toulousain, mais du CA Brive. Thomas Larangera, le capitaine arrière, sera avec nous dans la deuxième heure de l'intégral foot. On va parler mercato dans un instant. Et oui, ça bouge tous les jours, il y a de nouvelles informations. Tous les jours, il y a de nouvelles officialisations. On vous dit ça dans un instant dans l'intégral sport.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Avec Olivier Giraud, 18h48, on est heureux de vous accompagner en ce début de soirée sur RMC. Dans une dizaine de minutes, Mathieu Poderlic sera notre invité, le boxeur français, médaillé de bronze à Rio. Il aura un combat très important dans 16 jours. Sur la carte de la revanche, Anthony Joshua, Alexander Usyk, qui va combattre pour une demi-finale mondiale, rien que ça. Et dans une dizaine de minutes, Mathieu Poderlic sera en direct avec nous depuis Montréal, où il peaufine sa préparation. Juste avant cela, c'est l'heure de faire un point sur les dernières infos transfert. C'est le Mercato Show.
RMC,
le Mercato Show.
Et Naël Makhzoum nous a rejoint. Bonsoir Naël.
Salut Arnaud, salut Olivier. Salut
On Naël. A parlé du Paris Saint-Germain avec Christophe Galtier qui s'attend à avoir au moins trois renforts. Mais ça n'inclut pas celui qui va signer Renato Sanchez.
Ouais, c'est une information qu'on avait appris mardi soir, mais confirmée aujourd'hui par Christophe Galtier en conférence de presse ce midi. Le coach parisien a lui-même signifié que le milieu de terrain portugais arriverait dans l'après-midi. L'entraîneur du PSG, tu l'as dit, qui a également fait savoir qu'il attendait 3 recrues, en plus de Vitinha, Ekitike et Mukiele, déjà arrivés. Un joueur par ligne, donc probablement. Alors si en défense, la piste Skriniar s'éloigne, Bernardo Silva est lui dans les papiers de Luis Campos. Et puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, messieurs, l'opération dégraissage se poursuit. Paredes se serait mis d'accord avec la Juve, selon Gianluca Di Marzio. Paris demande 15 millions pour lâcher son milieu de terrain.
Bernardo Silva, tu signes toi, Olivier ?
À demain. Ça veut dire que là, tu c'est le type de milieu de terrain hyper créatif, capable tout seul, dos au but, de se retourner, de faire du jeu comme Paris en avait besoin. Et avec ce mélange-là, honnêtement, ça va laisser plus d'espace à d'autres génies. S'ils sont capables de faire prendre cette mayonnaise et surtout cette saine concurrence qu'il veut mettre en place, Paris...
Voilà, il veut des joueurs de niveau identique. Quand tu prends Bernardo Silva, oui, hein.
Ça peut vite être une machine, cette équipe de Paris. Paris. J'aurais pas pensé qu'ils seraient allés aussi loin dans le recrutement. Ça a pris un petit peu de temps, mais je pense que c'est l'un des meilleurs recrutements qui a été effectué sur une saison de manière stratégique par le PSG.
Alors c'est pas fait, mais c'est une piste évoquée. Et c'est vrai que cette idée séduit pas mal de supporters. Direction Marseille, ça chauffe de plus en plus pour Jordan Veretout. On en parle tous les jours pratiquement.
Ouais, la presse italienne annonce que l'OM et la Roma se rapprochent d'un accord avoisinant les 10 millions d'euros pour l'international français de 29 ans. 131 matchs quand même, hein, pour Veretout en 3 saisons dans la capitale italienne. Alors que Wijnaldum est pressenti pour le remplacer à Rome, l'ancien Nantais fait face lui à une vague de contestation sur la Canebière en rapport à une affaire privée. Marseille, de son côté, planche toujours aussi sur le dossier Alexis Sanchez. L'attaquant chilien a encore fait parler de lui hier soir, interpellé par des journalistes italiens au sortir d'un dîner avec son agent. Il n'a pas fermé la porte à un départ vers Marseille, sans oublier toutefois d'ajouter qu'il était encore trop tôt pour dire au revoir aux fans de l'Inter.
Sanchez à l'OM, pour toi, ça match parce que le caractère, la grinta, voilà, du Chilien.
Ouais, ils ont besoin de ça, mais tu sais, quand tu vas à Marseille et surtout lorsque tu es un attaquant, eh ben, il faut être sûr de tes qualités et sûr du travail que tu vas accomplir parce que tu peux pas aller à Marseille à moitié quand tu es un attaquant parce que tu es le premier sous les projecteurs et.
Il s'est géré avec la pression quand c'est aussi à l'Inter.
Mais n'a pas été un très très grand buteur et Marseille attend un grand buteur.
Il y a déjà Milik, le grand attaquant, mais peut-être pour l'épauler. Ouais. Une attaque Sanchez-Milik, c'est pas mal. Peut-être, certains diront un peu tard par rapport, mais je pense que ça peut quand même faire des étincelles au Vélodrome. Auxerre est aussi de retour en Ligue 1. Les Auxerrois misent sur un attaquant qui, lui, évolue en Ligue 2.
Ouais, il était prêté cette saison à Caen. Nuno Da Costa débarque à la GIA en provenance de Nottingham Forest. Il était prêté. Il débarque pour 2 ans, plus une année en option à 31 ans. L'attaquant retrouve la Ligue 1. Il avait déjà évolué à Strasbourg pendant 3 saisons. Il avait inscrit 17 buts.
Auxerre qui débutera sa saison dimanche. Non, c'est pas dimanche. Je n'ai pas l'information. Je pensais la trouver rapidement. Si, contre Lille. Voilà. Lille Agia. Pour les Iconais. Oui, c'est pas évident. On aime bien, généralement, les coachs aiment bien démarrer aussi à l'extérieur.
Non, mais je vais te dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la Ligue 1, il n'y a rien de simple. Hein. C'est rien de simple. C'est-à-dire que le moindre match, et surtout le début de saison, les équipes, on sous-estime notre championnat. Je trouve que là, il est bien musclé. Il faudra que notre championnat le prouve par la Coupe d'Europe. Mais Auxerre qui devra apprendre que la Ligue 1 n'est plus celle qu'ils ont connue à une certaine époque.
Oui, ça fait un petit moment, hein, plus de 10 ans que les Auxerrois n'avaient pas retrouvé la Ligue 1. On est content de revoir l'Abbé Deschamps. Puisqu'on parlait de Ligue 2 avec Auxerre qui monte, Saint-Etienne descend et les Stéphanois viennent d'officialiser un nouveau joueur.
Ouais, on l'a appris il y a quelques minutes, c'est Lenny Pintor, un jeune attaquant qui fêtera demain son 22e anniversaire. Il fait un court trajet puisqu'il quitte Lyon pour l'ennemi voisin Saint-Etienne. Donc, pas de match en pro pour lui la saison dernière, seulement 2 petites rencontres avec la réserve de l'OL. Lui qui a souffert en début de saison dernière d'une rupture des ligaments croisés.
On part à l'étranger, l'Angleterre, la première ligue qui reprend demain avec le Patrick Vieira Ico, Crystal Palace, l'équipe qu'il coach contre Arsenal, un club dont il a marqué l'histoire. Mais on ne parle pas de ces deux équipes, Naël, c'est Leicester qui refuse un pactole pour un ancien Stéphanois.
Et on a appris cette nuit par l'équipe que Chelsea a formulé une offre pour Wesley Fofana, ça tourne autour des 75 millions d'euros. Mais Leicester ne veut pas entendre parler d'un départ du défenseur français et a immédiatement refusé la proposition. Alors pas de quoi décourager les Blues, hein, pour pallier les départs de Christensen et Rudiger. Fofana serait la priorité de Thomas Tuchel.
Chelsea qui est l'un des clubs anglais, mais même au niveau européen, qui est le plus actif en ce moment.
Ah oui, les Blues ont un peu la folie des grandeurs même, puisqu'ils ont officialisé aujourd'hui la venue de Carney Chukwuemeka, un jeune milieu anglais de 18 ans qui a fait cette saison ses débuts en première ligue avec Aston Villa. Montant de l'opération, 23 millions d'euros pour un joueur qui n'a disputé que 16 petits matchs en pro. Autre cible de Chelsea, l'attaquant du Barça Pierre-Emerick Aubameyang. Problème, Xavi le juge intransférable et ce malgré l'arrivée de Lewandowski chez les Blaugrana. Notez aussi que c'était presque bouclé pour la venue de Marc Cucurella moyennant 60 millions d'euros, mais rebondissement aujourd'hui, Brighton dément, aucun accord n'a été trouvé pour son latéral espagnol.
Allez, du sud-ouest de Londres, on passe à l'est, à West Ham, qui vient d'enregistrer l'arrivée d'un joueur français.
Maxwell Cornet, l'ancien Lyonnais, qui a marqué 9 fois la saison dernière, mais veut partir après la relégation de Burnley. Les Hammers tablaient d'abord sur un prêt, mais discutent aujourd'hui pour un transfert sec autour des 21 millions d'euros.
Et pour terminer, ça va intéresser indirectement les supporters de l'Olympique Lyonnais, puisque la Juve pourrait attirer un ancien gone.
Et les Bianconeri souhaitent s'attacher les services de Memphis Depay. La Juve veut un prêt avec option d'achat obligatoire selon le média catalan Sport. Mais pour que l'opération aboutisse, le Néerlandais doit prolonger un an avec le Barça.
Depay à la Juve, sachant que Dybala est parti.
Bah écoute, il se balade Depay en ce moment. Mais Depay est un très bon joueur. De là à s'adapter au championnat, il ne s'est pas vraiment adapté après un bon début quand même avec Barcelone. La Juve, il faudra performer pour lui.
Après, c'est vrai que c'était pas évident aussi le contexte dans lequel il arrivait à Barcelone.
Et c'était pas les mêmes joueurs. Et bizarrement, d'ailleurs, on en a pas beaucoup discuté. Ce nouveau attrait de Barcelone, ces moyens retrouvés, je trouve ça extraordinaire.
C'est l'argent magique.
C'est magique.
Merci beaucoup, Naël Makhzoum, de la rédaction, pour ces dernières informations. Transfert. On revient encore pour la dernière heure de l'Intégral Sport avec Olivier Giraud, de la boxe, du golf, du rugby et du handball. Voilà le programme, avec notamment comme invité Nicolas Karabatic, qui, tu as été son capitaine, hein.
Oui, j'ai eu cette chance d'être son capitaine pendant 3 ans. Pendant 3 ans de victoire, parce que c'était avant des 3 ans de victoire.
Et voilà, Nicolas Karabatic, tout à l'heure, on revient dans l'Intégral Sport avec un très beau programme. Vous venez de l'entendre. Et là, juste à 19h, Mathieu Boderlic, le boxeur français qui va disputer une demi-finale mondiale dans 2 semaines. Il sera avec nous en direct depuis Montréal. À tout de suite dans l'Intégral Sport.
RMC.
Intégral Sport. RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.